D'après ce que dit le communiqué de presse, ça fait longtemps que vous aviez cette histoire en tête et puis un jour elle vous a rattrapé.
Oui, c'est vrai. Je crois que la première fois, je pensais à cette histoire, c'était il y a une dizaine d'années presque, il y a plus de 9 ans. Elle est arrivée un peu sans crier gare comme ça et j'avais la sensation que c'était une histoire compliquée, qu'il me faudrait beaucoup de temps pour la travailler. Je me trompais vraiment pas là-dessus. Et du temps, j'en avais pas beaucoup à l'époque. Donc, je me suis dit que je le ferais plus tard. Et finalement, les circonstances de la vie ont fait qu'à un moment, je l'ai eu, ce temps. Et j'ai décidé de me lancer. Et voilà. Et l'histoire était là, les personnages étaient là. Et après, tout est allé assez vite.
Vous parliez des personnages qui étaient là et quel est le personnage dans lequel vous êtes le plus investi ou qui vous tient le plus à cœur ?
Alors, non, il n'y a pas un personnage dans lequel je suis plus investi et c'est complètement idiot de dire ça parce qu'on dirait une mère qui parle de ses enfants, mais c'est vrai, je me retrouve vraiment dans beaucoup de personnages, j'ai beaucoup de plaisir à les écrire tous mais disons que le personnage qui est venu le premier est celui qui pour moi autour duquel l'histoire tourne. Celui qui est arrivé tout de suite, c'était le personnage de Clarisse et de son frère. Et après, les autres sont venus, et du père bien sûr, et après les autres sont venus se greffer petit à petit avec de belles surprises, comme par exemple les Borges qui n'étaient pas du tout prévus au départ et qui sont arrivés sans crier gare un jour sous ma plume, comme ça. Bahir avec sa femme et ses 3 filles. Et je me suis retrouvée avec une famille entière en me demandant qu'est-ce qu'ils allaient raconter dans cette histoire. Et ça, c'est très chouette. Et en fait, il y a beaucoup de personnages. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant au départ. Et c'est très plaisant d'écrire comme ça parce que ça diversifie les points de vue aussi. Et comme ils ont des âges différents, ce qui, moi, me tient à cœur, ça, par contre, d'avoir des personnages âgés, voire très âgés. Blaise, il a plus de 130 ans, si mes souvenirs sont bons. Des tout petits, il y a un bébé. Ça m'intéresse parce que... cet échange-là entre les gens, en fait, ou entre les personnages, pour moi, est intéressant, quoi. Voilà. Donc, non, il n'y a pas un personnage que je préfère, et je pense que finalement, il n'y a pas un personnage principal. Je crois que les personnages secondaires viennent éclairer l'histoire d'une manière très intéressante aussi, et qui pourraient être eux-mêmes des personnages principaux d'une autre histoire. En tout cas, j'y accorde la même. Je les travaille avec la même attention et le même intérêt que ceux de Clarisse ou de Jade.
Alors justement, vous, tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'on dirait une maman avec ses enfants, mais le thème de la filiation est très présent dans le livre, enfin, j'ai trouvé. Et est-ce que justement, maintenant que vous êtes dans la peau de l'auteur et dont le livre est livré en pâture au public et aux critiques, est-ce que vous avez un sentiment maternel vis-à-vis du livre ?
Alors non, bizarrement non, j'ai pas un sentiment maternel parce que j'ai pas la sensation que ce livre m'appartient, c'est-à-dire ce livre-là, j'ai écrit d'autres livres avant qui ont été publiés au Brésil puisque je suis franco-brésilienne et j'ai donc 5 autres livres publiés au Brésil. Ce livre-là est assez particulier parce que d'abord c'est une longue histoire, pour moi c'est une histoire qui est assez longue avec beaucoup de personnages, donc beaucoup de points de vue, etc. Et c'est une histoire, comment dire, pour les lecteurs vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que le livre a été écrit, que j'avais terminé, que j'avais trouvé ce que je voulais dire et de la bonne manière de le dire, je le lâche. Et c'est vraiment la sensation que j'ai. Et ça devient très excitant maintenant parce que c'est maintenant que le livre va vraiment vivre sa vie de livre. Donc, il va être lu. Et il appartient au lecteur. Maintenant, il m'appartient plus à moi, quoi. On pourrait dire la même chose des enfants après, hein. Mais c'est pas un sentiment maternel. Ça a pas le même. On peut pas dire que c'est un sentiment maternel, non.
Alors, même si le livre vient juste de sortir, j'imagine que vous avez déjà eu des retours. Quel est le retour qui vous a le plus surpris ?
Alors le plus surpris. On a des retours très positifs et c'est pour l'instant vraiment formidable. Ce qui me rend très heureuse, c'est de voir que les lecteurs s'attachent à des personnages différents. que pour certains, chaque fois que quelqu'un en parle, il dit « Ah, moi j'adore Jade » ou « J'adore Blaise » ou « J'adore Maya », etc. Et c'est jamais le même personnage. Et ça, ça me procure un sentiment de satisfaction, vraiment, parce que à ce moment-là, le lecteur s'est emparé du livre et se l'est approprié. Et c'est exactement ce que je voudrais, quoi. C'est que le lecteur fasse ce livre sien et du coup, il va raconter une autre histoire. Et c'est là où ça devient intéressant pour un auteur, enfin en tout cas pour moi. Alors après, un retour qui m'est surpris, je vois pas trop. J'ai été surprise par tout. C'est chaque fois un petit miracle, hein, quand même. Moi, je le sens comme ça. Hein. Chaque fois que quelqu'un me dit j'ai aimé votre livre, je le sens comme un petit miracle. Donc en fait, les retours me surprennent tous quelque part.
Vous parliez des livres qui ont été publiés au Brésil, mais je crois qu'il y a aussi eu un livre chez Gallimard en France, mais qui était plutôt un documentaire, une fiction documentaire. Et du coup, j'imagine que le travail d'écriture et de documentation a été très différent pour les deux livres.
Oui, j'ai publié un livre pour Gallimard Jeunesse dans une collection qui s'appelle Journal d'un enfant. Et là, donc, c'était le Journal d'un enfant au Brésil. Le travail d'écriture, c'est toujours un travail d'écriture, mais c'est vrai que bon, là, j'avais beaucoup moins de temps pour le faire. Il y avait un cahier des charges très précis, puisque tous les livres de la collection devaient remplir certaines conditions. Donc, il y avait des thèmes qui devaient être abordés, un format qui était donné d'avance, etc. Tandis que pour les éveilleurs, j'ai vraiment eu une liberté totale de créer comme je l'entendais. Et c'est différent, c'est pas... Et puis le Journal d'un enfant au Brésil était une fiction, mais une fiction qui devait appeler au documentaire. Donc effectivement, c'est pas la même chose. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce livre pour Gallimard aussi, parce que c'était présenter mon pays. C'était même un défi assez émouvant, parce que je devais présenter mon pays aux enfants français. Et j'ai vraiment beaucoup réfléchi, hein, comment je voulais le faire, de quoi je voulais parler, comment je voulais le dire, comment essayer d'aborder ce pays qui est immense et sans en parler d'une manière caricaturale et en même temps, voilà. Donc c'était un défi, c'était un beau défi. Et puis c'était mon premier livre en français, celui-là. Donc que mon premier livre en français soit un livre sur le Brésil, c'était très bien, ça bouclait la boucle.
Alors, les livres qui ont été publiés au Brésil, c'est de la fantasy ou un tout autre style ?
Il y a des livres de poésie, il y a des livres, il y a un roman qui s'appelle L'Odalisque et l'éléphant, qui est un roman que j'ai traduit, parce que je suis aussi traductrice, donc j'ai fait beaucoup de traductions. Donc celui-là, je l'ai traduit parce que c'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur et j'aimerais bien l'avoir publié en français, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait. Mais l'odalisque et l'éléphant, je ne sais pas si on pourrait le dire que c'est de la fantaisie. J'ai un peu de mal avec ces catégories fantaisie, merveilleux, science-fiction, livre d'anticipation, etc. Je ne suis même pas sûre que les éveilleurs soient... Je ne sais pas dans quelle case je le mettrais, voilà, si je devais le mettre. Bon, c'est pas mon... Après, ce n'est pas à moi de le faire. Donc c'est pas... Disons que l'odalisque et l'éléphant, ce serait peut-être plutôt du merveilleux, on va dire. Ça ressemble plus à un conte ou une fable. Voilà. Et après, des livres pour enfants plus petits, il y a eu également, et puis des récits plus petits. Comme je vous ai dit, comme j'avais moins de temps, les livres étaient obligatoirement plus fins, quoi. Voilà.
Alors, vous parliez du merveilleux, du conte et de la fable. Est-ce que vous avez été bercé par la double culture conte européen et conte brésilien ?
Alors, oui, parce que ma mère est brésilienne, mon père est français, et j'ai vraiment vécu beaucoup au Brésil et beaucoup en France, c'est-à-dire 4 ans au Brésil, 10 ans en France, 10 ans au Brésil, voilà, un mouvement un peu pendulaire comme ça. Et je me sens vraiment biculturelle. Il y a eu une phase où c'était assez compliqué d'ailleurs, à l'adolescence, par exemple, quand il a fallu choisir la langue dans laquelle écrire, ça a été assez compliqué. Maintenant, ça ne l'est plus du tout. En fait, j'écris dans les deux langues avec autant de plaisir et de... Oui, avec autant de plaisir. Et oui, je suis, bien sûr, oui, je suis attachée aux deux cultures, aux deux histoires, aux deux manières d'être, aux deux façons de vivre. Hein, c'est des qui sont assez différentes. Et je ne sais pas si ça se sent dans les éveilleurs. Tiens, je me demande, je ne me suis jamais posé cette question. Mais oui, pour moi, c'est la double appartenance est fondatrice, quoi.
Alors pour ma part, en fait, la seule évocation que j'ai vue de l'Amérique latine, en fait, à travers le nom de Borges. Et il y a beaucoup d'évocations de la littérature dans votre œuvre. Alors d'où ça vous est venu ? Est-ce que c'était une envie de donner des pistes de lecture au lecteur ou juste d'intégrer des éléments de votre imaginaire à vous ?
Oui, non, des pistes de lecture au lecteur, ce serait un peu prétentieux, quoique oui, pourquoi pas. Mais c'est parce que la lecture fait partie de... La lecture nourrit mon écriture de façon... Enfin, j'arrive pas à les... Pour moi, elles sont indissociables, voilà. Et que j'avais envie de... j'en sais rien, c'est venu comme ça, assez naturellement. Mais c'est, je fais toujours ça un peu dans mes livres, en fait. Dans Le Disque de l'éléphant, il y a ça aussi. Oui, non, c'est ça. C'est des livres. Bon, après, Borges, il s'appelle pas Borges pour rien, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres évocations de... Si, il y a aussi La Maison aux Esprits, qui est un livre d'Isabelle Allende, qui est une chilienne. Borges, c'est un Argentin. Mais la littérature a pas de frontières. Hein, si, alors, par contre, si bien sûr, si ça peut donner envie aux personnes qui vont lire Les Éveilleurs de se pencher sur ces livres-là, je serais très heureuse parce que c'est des livres qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est sûr. Oui. Mais c'est l'histoire de la lecture. La lecture est fondamentale pour moi et donc pour les personnages aussi, parce qu'il y a la guilde des nomades de l'écriture et ça passe obligatoirement, ça passe par la lecture pour moi, oui. Et dans ce monde où toute la technologie a disparu, où il n'y a plus de téléphone, où il n'y a plus de voiture, où il n'y a plus de télé, où il n'y a plus, vous rendez compte, un monde sans télé, où il n'y a plus de vidéo, où il n'y a plus de cinéma, où il n'y a plus, restent les livres. Peut-être parce que moi, si je devais éliminer quelque chose, si je devais garder quelque chose, je garderais les livres.
Et quand vous étiez enfant ou adolescente, vous lisiez beaucoup ?
Oh. Oui, énormément. Je lisais, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que c'est ce que j'ai le plus fait dans ma vie, c'est lire. Le premier livre que j'ai lu, c'était une collection qui peut-être existe encore, qui s'appelait Contes et légendes, où on avait et là, c'était Contes et légendes de l'Iliade et de l'Odyssée. Donc j'ai lu l'Iliade et l'Odyssée dans une version bien sûr pour enfants et résumée, mais ça m'a déterminé beaucoup de choses de mon goût, de ma manière d'écrire, de ce que je cherche dans l'écriture et dans la lecture. Et donc c'est oui, je lis encore beaucoup. Oui, c'est vraiment très important. Mais je crois que même si on lit pas tant que ça, je crois qu'on peut toujours s'y mettre. Il y a toujours un moment où on peut avoir un tilt et commencer à le faire. Je crois que, par exemple, Harry Potter a eu cette importance-là pour moi. En plus, j'ai adoré le livre. Je trouve que c'est très bien fait. Il y a des idées formidables. Mais pour un auteur, ça doit être extraordinaire d'avoir des milliers de personnes qui lui disent « Je lisais pas avant ». Et je lis maintenant. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut pas. C'est formidable, ça. Et. Oui, non, la lecture est très, très importante.
Est-ce que vous auriez aimé avoir un jumeau ou une jumelle ?
Je ne sais pas répondre à cette question parce que je ne sais pas pourquoi ces personnages sont... Enfin, maintenant, je sais pourquoi ils sont jumeaux à cause de l'histoire, mais ils sont apparus comme ça tout de suite et ils étaient jumeaux et c'était une évidence. Non, je ne sais pas si j'aurais aimé avoir un jumeau, une jumelle ou des enfants jumeaux. Je crois que c'est très particulier quand même. Hein. Ouais, ça me donnait l'occasion. C'est toujours l'histoire des points de vue. Ça me donnait l'occasion de raconter l'histoire aussi de deux points de vue différents et de brouiller un peu les pistes. C'est-à-dire que bon, Clarisse n'est pas tout à fait un personnage. C'est une fille, mais une fille avec ses caractéristiques et Jade avec les siennes. Des fois, on a l'impression qu'ils échangent un peu les standards et pourquoi pas, et c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est ce que je fais à plein d'autres niveaux dans le livre, où je joue un peu justement avec les standards de la fantasy. Leur père c'est un duc mais qui n'en est pas un, le château c'est un château mais ça n'en est pas un, ils ont des pouvoirs mais on ne sait pas ce que c'est encore. Voilà, ça m'amusait, ça m'intéressait de dire les choses un peu autrement.
y a une pratique qui se rapporte un peu à mes arts martiaux. Et il y a aussi le tirage des bâtonnets. Je me suis demandé hier si ça venait de Kadik ou pas. Dans le maître du Haut-Château, en fait, il utilise le même procédé.
La pratique, c'est l'unir, oui. C'est quelque chose qui ressemble un peu au yoga ou au tai chi, qui est une pratique en fait de... C'est pas un art martial dans mon entendement, c'est plutôt une pratique spirituelle en mouvement, quoi. Voilà. Ça peut l'être, en tout cas comme peut l'être le tai chi ou le yoga. Et le jeu de Blaise, que tire Blaise, c'est même tout à fait le I Ching, qui est ce jeu millénaire chinois de divination qui se lit, on va dire, avec des baguettes ou avec des pièces de monnaie. Et donc on tire avec les baguettes, c'est assez compliqué. Avec les pièces de monnaie, on tire 6 fois des pièces de monnaie et puis on a un hexagramme et chaque hexagramme correspond à une prédiction, ouais, c'est très intéressant. Et c'est vrai, j'avais pas pensé à Kadik. Mais alors ça, c'est quand même formidable, je trouve, c'est que on n'invente rien. Hein. Tout est là et on transforme. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir inventé quelque chose. Je crois qu'on a au même moment où moi j'ai une idée, il y a 10 000 autres personnes qui ont la même. Après, si c'est moi qui l'écris, ben ça aura une patte, ça sera écrit d'une autre façon, et si c'est un autre, ce sera une autre. Mais voilà, je revendique assez ça, d'ailleurs, les inspirations et les. C'est pour ça aussi que je cite les auteurs. Je trouve que les livres parlent entre eux, et qu'un livre en appelle un autre. En tout cas, c'est comme ça que je le sens, et c'est très bien comme ça, quoi. Et les idées dans la fantaisie, c'est pour ça que la fantaisie est un domaine, je crois, particulier de la littérature. Parce qu'il est très libre. Et j'ai la sensation, alors je dis peut-être une bêtise, mais j'ai la sensation que les auteurs de fantasy sont moins agrippés à leurs inventions, à leur paternité sur les idées, et qui se les échangent assez facilement, qu'on retrouve les idées des uns chez les autres. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est que ça circule. Je veux dire, voilà, que ça circule, qu'on s'enrichisse les uns les autres, qu'on en fasse un. J'ai pas de j'ai ni un sentiment de paternité ni de maternité avec ce que j'écris.
Vous en êtes où de l'écriture du prochain tome?
Alors, l'écriture du prochain tome, ce qui s'est passé, c'est que ce livre-là, le premier, était un peu plus long à mettre en place parce que c'était vraiment la mise en place de l'univers et qu'il a fallu vraiment réfléchir. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à travailler sur comment j'allais dire quoi et qui allait le dire. Et comme je ne voulais pas faire de mise en place lourde au départ des personnages, des enjeux, de la géographie, etc., je voulais vraiment diluer les informations au cours du récit. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Pardon, attends. Pas grave, on comprend. Oui, par exemple. Attendez, j'essaie de reprendre mon. C'était quoi? Ah ouais, dans les deuxièmes, voilà. Donc une fois que maintenant que l'univers est en place, que les personnages sont là, en tout cas les personnages principaux sont assez définis, décrits, etc. Vas-y. Je pense que le deuxième va aller plus vite et c'est heureux parce que voilà, maintenant les lecteurs attendent. Alors ce deuxième volume, l'écriture se présente d'une manière assez particulière, c'est que je ne l'écris pas de façon chronologique, mais comme Clarisse, bon, sans vous en dire beaucoup, comme Clarisse va être séparée de son frère, ça on le sait déjà à la fin du premier volume, elle va partir de son côté, lui du sien, on va la suivre elle, lui aussi, mais surtout elle. Enfin, pas surtout elle, mais disons que d'une manière différente. Et elle va voyager. Donc elle va aller dans des lieux différents. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train d'écrire en fonction des lieux et que après je vais tricoter ce qui se passe au milieu, parce que il y a beaucoup de points de vue. Encore une fois, il y aura le point de vue de Blaise, il y aura celui de Clarisse, celui de Jade, celui de Hugues, etc. Et cette architecture est délicate à mettre en place et demande vraiment une attention particulière. Voilà, donc il se construit étrangement. Alors, c'est pour ça que c'est difficile de dire où j'en suis, mais disons qu'il y a, je sais pas, 150 pages ou 200 pages d'écrites, mais je sais où je vais, quoi. Voilà, je sais ce qui va se passer, même après.
Et le deuxième sera le dernier tome ou l'aventure poursuit après?
Mais c'est pour, alors, j'ai envie de dire que ça dépendra des lecteurs et de ce qui va se passer avec ces livres. Mais pour moi, c'est une longue histoire. Et c'est une histoire qui peut être très longue, qui peut être moins longue. On va voir comment ça va ce qui va arriver. Moi, je pense pas à ça. Je raconte l'histoire au fur et à mesure où elle se présente. Et non, on était parti sur une trilogie quand même. Donc, de toute façon, normalement, on devrait en avoir encore deux de plus, quoi.
Vous imaginez si un jour on vous propose une adaptation cinématographique?
Non, j'ai pas du tout pensé à ça. Non, j'ai pas pensé à ça. Si on me la propose, on verra. Non, non, j'ai jamais pensé à ça. Par contre, c'est vrai que moi, je vois les scènes, quoi. C'est ça qui est assez curieux. Je m'en suis rendu compte il y a pas très longtemps. C'est que quand je décris une scène, ou quand j'écris une scène, tout simplement, je vois les personnages bouger. Et je me suis rendu compte, par exemple, qu'il y avait pas mal d'indications, comme il tourne le dos, il va vers la fenêtre, etc. C'est parce qu'en fait, je décris ce que je vois. Je sais pas si ça, j'ai pas de recul pour savoir si ça donne au livre une dimension cinématographique ou pas. Ça, je peux pas. L'auteur a pas beaucoup de recul quand même, hein, sur ce qu'il fait. Donc, ça, c'est plus à vous de me le dire que moi.
Quand vous étiez petite, est-ce que vous aviez le même sentiment que l'aventure était réservée d'abord aux garçons?
Alors, j'avais pas le sentiment que l'aventure était réservée aux garçons, mais j'avais quand même le sentiment que les garçons pouvaient faire pas mal de choses et pas les filles. Enfin, et surtout, j'avais le sentiment que dans la littérature, les filles ou les femmes avaient le rôle le moins intéressant. Alors, quand j'avais 12 ans, hein, l'âge de Clarisse, c'est-à-dire que entre être Ulysse et Pénélope, je préférais mille fois être Ulysse et vivre les aventures d'Ulysse que être Pénélope en train de tisser, de défaire son truc. Enfin, franchement, c'est pas très excitant quand on a 12 ans de rester à la maison, de garder les chèvres, de faire grandir son gamin et d'attendre un mec qui revient jamais, quoi. Voilà, en gros. Et si on réfléchit bien dans toutes ces histoires, et l'Odalisque et l'éléphant parle de ça, hein, exactement de ça, donc c'est un peu une obsession ou un thème de prédilection. Et si on réfléchit bien, dans toutes les histoires, dans tous les binômes, c'est les hommes qui ont la partie aventurière. Enfin, c'est les hommes qui partent et qui font et qui agissent, etc. Et les femmes qui... Alors, Pénélope, elle est remarquable. Hein, mais ça doit être assez ennuyeux. Voilà. J'ai un peu adouci ce sentiment-là. Mais à 12 ans, oui, je sentais exactement ça. Mais Clarisse va progresser aussi, hein, par rapport à ça. Hein. Elle va évoluer, quoi.
Et à cet âge-là, vous imaginiez que vous feriez quoi comme profession?
Alors, moi, j'ai commencé à écrire à 10 ans. Et quand j'ai commencé à le faire, moi, j'avais un prof. Alors, j'étais en France à ce moment-là, parce que comme j'ai fait pas mal d'allers-retours, mais à ce moment-là, j'étais en France. Et j'avais un prof de CM2. Je l'ai eu en CM1 et CM2, donc ça devait être en CM1. Qu'est-ce que j'ai en CM1? 9 ans, ouais. Qui a inventé quelque chose qui a juste changé ma vie, je pense. Et un jour, il nous a dit, vous allez faire des textes libres. C'est-à-dire qu'on avait le droit, si on voulait, ou la possibilité d'écrire des textes en dehors des notes qui n'étaient pas notées et qu'on lui amenait. Quand on avait écrit un texte, il mettait un rond bleu. Et quand on avait 4 ronds bleus, il mettait un rond rouge. Et quand on avait un rond rouge, il nous offrait un livre. De sa poche à lui, c'était son initiative personnelle. Voilà. Et moi, quand j'ai entendu texte libre, c'est le mot libre qui m'a, en fait, qui m'a fait tilter, je pense. Et je me suis dit, mais voilà, je vais essayer. Et j'ai posé mon stylo sur la page et les choses sont venues, les idées sont venues. C'est encore comme ça. Hein. Je retrouve toujours ce sentiment de liberté et de plaisir et de oui, quand j'écris. Et j'ai plus arrêté, en fait. Donc, je savais pas que c'était une profession ou je pensais pas en faire. Ça n'en est pas vraiment une. Hein. Il faut le dire aussi, écrire, c'est écrivain, c'est pas un métier, malheureusement. La plupart des écrivains ont un autre métier pour gagner leur vie, parce que sinon ils n'en sortent pas, ce qui est bien dommage. Et donc je ne pensais pas en faire un métier. Après j'ai fait une école de journalisme, une fac d'histoire, donc j'ai été journaliste. Mais à partir du moment où j'ai écrit mon premier texte libre, je savais que ça, c'était ce qui m'importait le plus, l'endroit où je me sentais le mieux, ce qui m'importait le plus de joie et que c'était ça que je voulais faire, oui. Oui.
Est-ce que vous écoutez de la musique pendant que vous écrivez ?
Alors pendant que j'écris, j'écoute parfois de la musique, j'écoute pas mal de musique classique, mais j'écoute aussi beaucoup de musique brésilienne. Oui, mais la plupart du temps, c'est plutôt en silence. J'ai la chance d'avoir un bureau. Bon, j'habite à Toulouse, j'habitais 20 ans à Paris, 22 ans, et depuis 5 ans, je suis à Toulouse. Et on habite dans une maison qui a un petit jardin, et en fait, j'écoute les oiseaux quand j'écris. Et j'écoute les chevaux qui passent derrière, parce qu'il y a un club hippique juste à côté, et j'entends tic, 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 tic. Voilà, et j'écoute le silence, oui. Mais ça m'arrive hein, d'écouter de la musique, ça dépend un peu de ce que j'écris, quoi.
Et est-ce qu'il y a d'autres livres que vous ne citez pas dans votre livre à vous qui vous ont profondément marqué ?
Oui, il y a plein de livres. Il y a des auteurs surtout. Alors Virginia Woolf, ça a vraiment été une figure importante dans mon apprentissage tout court, je crois. Après, il y a un écrivain brésilien qui s'appelle Clarice Lispector. Clarice Lispector, bah tiens, Clarice. Il y a tous les écrivains latino-américains de ce qu'on appelle très étrangement en français le réalisme magique, ce qui est quand même très drôle, parce que c'est quand même deux termes qui sont accolés d'une manière assez, assez curieuse. J'aime beaucoup la littérature latino-américaine. Il y a un foisonnement, une liberté, encore une fois, et une chaleur comme ça qui, moi, m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup Isabel Allende, j'ai beaucoup lu Borges. Mais je lis aussi beaucoup de fantasy et de science-fiction. Il y a beaucoup d'auteurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Robin Hobb, Tad Williams, Silverberg, Marion Zimmer Bradley avec sa romance de Ténébreuse. Elle m'a vraiment donné. Alors, j'aime pas tout ce qu'elle fait, mais la romance de Ténébreuse dans 19 volumes, c'est assez extraordinaire quand même. J'ai pas du tout l'intention d'écrire 19 volumes hein, pour les éveilleurs, rassurez-vous. Mais c'était une vision intéressante, quoi, assez féministe comme ça. Bon, peut-être qu'elle est un peu connotée aujourd'hui, mais à l'époque où elle l'a écrite, c'était assez courageux. Et Ursula K. Le Guin, que j'aime énormément, qui est un auteur vraiment avec lequel j'ai appris des choses. Bordage, il y a beaucoup de monde. J'ai envie de dire que tout ce que je lis m'intéresse et me alimente mon univers, ma vie. Voilà, je crois que la lecture, les livres, et pas seulement les livres, le cinéma, la musique, ont cette. C'est peut-être ça la. Comment dire ? C'est peut-être ça le grand cadeau de la culture, de l'art, ou je sais pas quel mot on doit employer pour ça, mais c'est qu'ils enrichissent notre vie, quoi. Quand on aime lire, on n'est jamais seul. On a toujours un copain dans la poche, ou plusieurs. Moi, je sens ça comme ça. Après, je vais m'en vouloir parce que j'ai sûrement oublié des gens qui sont importants et dont je ne me souviens pas maintenant. Mais voilà.
Et est-ce que vous avez d'autres histoires en tête que vous aimeriez écrire une fois ou fini les éveilleurs ou pendant les éveilleurs ?
Alors oui, j'ai d'autres histoires en tête. J'ai deux histoires commencées. En fait, j'ai beaucoup de textes hein, dans mon ordinateur. Pendant de nombreuses années, j'ai écrit que de la poésie, donc j'ai aussi beaucoup de poésie. Oui, j'ai un projet d'une histoire. Oui, j'ai d'autres choses. Mais les éveilleurs là m'accaparent. Hein, Il laisse pas beaucoup de place pour autre chose. C'est un univers quand même qui me laisse pas tranquille. Hein. Je veux dire, voilà, y a pas de vacances. Il me réveille pendant la nuit. Les personnages sont très exigeants. Ils ont envie qu'on raconte leur histoire et je peux pas. Voilà. Donc, pour l'instant, je pense qu'à eux. Enfin, dans l'écriture.
Est-ce que vous envisagez de traduire Les Éveilleurs en brésilien ?
Alors, je me suis posé la question parce que, bon, d'abord, on n'a pas encore, pour l'instant, on n'a pas de proposition de traduction, mais je crois que je ne pourrais pas pour deux raisons. Enfin, je crois que je ne le voudrais pas pour deux raisons. La première, c'est que si je traduis, je n'écris pas. Et que là, il faut que je. Voilà, il ne faut pas que je prenne trop de retard. Il faudrait au moins, je sais pas, il faudrait au moins 4-5 mois pour traduire Les Éveilleurs. Et après, c'est que je vais être trop tentée de changer les choses, quoi, en cours de route. Alors par contre, c'est vraiment, vraiment une sensation formidable d'être à la fois l'auteur et le traducteur, parce que pour une fois, on a vraiment le droit de faire ce qu'on veut avec la traduction. Et quand j'ai traduit l'Odalisque, c'était très, très chouette à faire, parce que j'avais plus besoin de... Enfin, la question qui est une question sans réponse, hein, qui est vraiment, est-ce que c'est vraiment ça qu'a voulu dire l'auteur ? Du coup, je pouvais me la poser à moi-même et c'était juste formidable, quoi. Mais pour Les Éveilleurs, je crois que je ne me lancerai pas là-dedans. Non, de toute façon, là, bon, la question ne se pose pas encore.
Vous sortez de plusieurs interviews. Quelle est la question qui vous a le plus étonné ?
Aucune. C'est-à-dire qu'on ne m'étonne pas facilement, mais ce n'est pas vrai. C'est... Moi, en fait, parce que... Comment vous dire je suis plus intéressée par ce que pensent les lecteurs que par ce que je pense, moi, du livre. Hein. Donc, en fait, j'ai envie de faire le contraire. C'est moi qui ai envie de poser des questions. Je préférais vous poser des questions à vous et savoir ce que vous avez ressenti, vous, et qu'est-ce qui vous a plu, et qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce qui vous a ému, qu'est-ce qui vous a fait rire ou pas, ou enfin, vous vous êtes ennuyé, enfin, j'en sais rien, tout ça. Et donc, en fait, je sais jamais ce qu'on va me demander. Donc, non, rien m'a... Si, il y a une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est que... Il y a plusieurs choses intéressantes, mais celle-là m'a un peu intriguée. C'est que, par exemple, par rapport à la grande catastrophe, dont je parle finalement très, très peu dans le livre, et à dessein, parce que la grande catastrophe se passe 70 ans avant l'histoire. Donc les jumeaux, qui sont les personnages qu'on suit, ne savent rien de cette grande catastrophe. Donc... Je voulais que le lecteur l'apprenne en même temps qu'eux, mais toutefois, il fallait donner quand même quelques indications, etc. Et donc, j'ai l'impression d'en avoir très peu parlé, et beaucoup, 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 beaucoup de questions tournent autour de ça. Les gens sont très, très intéressés par ça.
Je pense que c'est un thème dans l'air du temps.
Alors voilà, curieusement, c'est un thème dans l'air du temps, mais vous voyez, moi, j'ai commencé à écrire ça il y a 10 ans, c'était pas encore tout à fait dans l'air du temps, Oui, alors donc ça veut dire que c'est ça, qu'il faut, il faut vraiment en parler. Et moi, il y a des thèmes qui me tiennent à cœur hein, par rapport à ça. Mais j'étais surprise de voir que c'était ce qui avait tellement accroché les gens et les ados en particulier. Quoi. Après, si ça les amène à se poser quelques questions, à poser des questions aux adultes et à prendre les choses un peu en main, c'est formidable. Hein. Oui, ça j'étais étonnée parce que j'avais la sensation de ne pas en avoir beaucoup parlé. Et donc ça c'est merveilleux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand le lecteur s'empare du livre et on s'en fiche quoi, je veux dire, il prend ce qu'il veut, il jette ce qu'il veut pas, il transforme ce qui lui convient pas et il fait du livre son objet. Et c'est ça qui m'intéresse. Et si ça marche, pour moi, c'est pas très important ce que moi j'ai voulu y mettre. Bien sûr que c'est important dans l'écriture, et moi je sais ce que j'ai voulu y mettre, mais ce qui moi m'importe, c'est ce qu'on lit, quoi. Et c'est bien si c'est pas la même chose. Ça ouvre des portes. Moi, ce qui m'émerveille, c'est quand les gens parlent des personnages comme si c'était des personnes, quoi. Parce que c'est comme ça quand on lit, hein, quand on lit un livre et qu'on l'aime, quand on pense aux personnages, on se dit pas que c'est des personnages, on a l'impression que c'est des gens. Enfin, on les voit, et donc ça c'est un très beau cadeau que font les lecteurs aux auteurs.
Alors, Alors justement, vous évoquiez la grande catastrophe. Donc il y a une dimension écologique au roman. Et est-ce que vous êtes pessimiste? Est-ce que vous pensez qu'il va falloir passer par une grande catastrophe pour retourner aux choses essentielles ou...
Alors, là, vous avez dit quelque chose de fondamental, c'est ça, c'est les choses essentielles. Non, je suis pas du tout pessimiste et j'espère que le livre n'a pas cet accent-là de pessimisme. J'espère vraiment qu'on n'aura pas besoin de passer par ça. Par contre, il va falloir se réveiller, quoi. Ça s'appelle pas les éveilleurs pour rien. Je pense qu'il faut se réveiller et il faut bouger. Il y a des choses qui sont déjà arrivées à un point de non-retour. Que ça va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait ou que ce qu'on calculait et que là il faut prendre les choses en main. Et j'espère qu'on n'aura pas besoin de passer par ça. Je l'espère de tout mon cœur, quoi, hein, vraiment. Et après, les choses essentielles, ça me parle parce que. Je crois qu'on est parasité par beaucoup de choses qui en fait sont pas très importantes. Je crois qu'on vit trop vite, tout va trop vite et c'est pas à l'échelle humaine ça. On travaille trop vite, on communique trop vite, donc on travaille mal et on communique mal. On aime trop vite, donc on aime mal, etc. Enfin bon, après ça a l'air d'un discours de vieille peau comme ça, mais. Je crois qu'il faut prendre le temps. Voilà, j'avais envie que ce livre se déroule dans un univers où le temps se passait autrement et donc passait autrement aussi. S'il n'y a pas de monde digital, le temps se déroule plus lentement parce que c'est pas les secondes qui comptent, c'est les minutes, les heures, les saisons, etc. Et ça change certes de rien, mais en fait, ça change tout. J'avais envie que les ados se disent tiens, mais parce que pour eux, pour eux, c'est inimaginable un monde sans portable, par exemple. Ça fait tellement partie de leur vie. C'est tellement un outil qui leur parle et dont ils savent très bien servir, d'ailleurs, et avec lequel on peut faire des choses formidables. Je suis pas du tout... ce serait même complètement aberrant d'être contre la technologie ou la science. C'est pas du tout ça. Hein. C'est juste que c'est bien de se demander de temps en temps, tiens, mais s'il n'y avait pas de voiture, comment on ferait ? Est-ce que c'est une catastrophe de mettre 15 jours pour arriver quelque part au lieu de mettre, 12 heures en avion ou... Est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que ça permet pas d'autre chose? Est-ce que, voilà, et si c'était différent Non, je suis pas pessimiste, au contraire, hein, je suis quelqu'un de foncièrement optimiste, je crois.
Alors, vous avez prononcé plusieurs fois, j'espère que les ados, vous l'avez écrit à dessein pour les ados. Enfin, vous aviez cette cible-là en tête ou non?
J'ai jamais de cible moi en tête, mais je dis les ados parce que les personnages sont des adolescents et qu'on va les accompagner. Mais très franchement, je pense que ce livre peut être lu par des personnes d'âge différent. Enfin, en tout cas, c'est le retour que j'ai. J'ai des personnes qui ont 80 ans, qui l'ont lu et qui ont trouvé quelque chose. Et des gamins de 12 ans, ils ont trouvé quelque chose. Et des gens de 40 ans, de 50 ans. Je parle des ados parce que les personnages sont des adolescents et que oui, ce message-là, s'il y a un petit message, il y a, mais cette alerte-là, ça les concerne plus eux parce que les adultes devraient le savoir, tout ça. Ils le savent pas, mais ils devraient le savoir. Par rapport aux adolescents, oui, il y a ce sentiment-là, un peu d'urgence, quoi. J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils prennent les choses en main parce que c'est à eux que ça va revenir. Hein. Oui, et là, ça a été beaucoup plus vite. C'est-à-dire que le portrait de la planète, d'autres personnes en parlent beaucoup mieux que moi, ça, hein, mais le portrait de la planète aujourd'hui est beaucoup plus différent de ce qu'il était il y a 50 ans que n'importe quelle autre 50 années. Enfin, je m'exprime mal, mais vous voyez ce que je veux dire, ça va très très vite, là, ça s'accélère. Je ne pense pas qu'on puisse l'empêcher, il y a des choses qu'on ne pourra plus empêcher, mais on peut au moins s'arrêter et faire un arrêt sur image et réfléchir un peu. Et ça implique se poser ces fameuses questions essentielles de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important, vers où on veut aller, comment on veut le faire, ce dont on ne veut plus, voilà. Mais non, c'est une bonne question que vous avez posée là, parce qu'en plus, j'ai toujours une difficulté avec ça, avec mes bouquins, parce que très souvent, On me demande ça, mais quel est le public cible? Et pour moi, il n'y a pas de public cible. Il n'y a pas de cible, d'abord, parce que je ne suis pas en train de tirer sur quelque chose. Il y a, j'écris comme je sais écrire et dans l'espoir que ça atteindra le plus de gens possible. C'est tout, quoi.
Tout à l'heure, vous disiez que ce n'était pas un hasard si ça s'appelait Les Éveilleurs. C'est un titre qui s'est imposé tout de suite ou vous aviez eu d'autres titres en tête?
Non, il n'y a pas eu d'autres titres. C'est Les Éveilleurs. Alors, Les Éveilleurs, personne ne m'a encore posé cette question. Les Éveilleurs, moi, j'ai la sensation que dans la vie, on rencontre des gens qui nous éveillent à des choses et qu'on est les éveilleurs les uns des autres. Hein. Jade et Clarisse, ils ne sont pas... Alors, bien sûr, ils sont différents parce que c'est les héros d'un livre. Donc, mais... Cette histoire, par exemple, qu'on trouve souvent dans la fantasy ou dans la science-fiction, de l'élu, moi, il n'y a pas d'élu. Pour moi, tout le monde est élu. Hein. Et on rencontre des gens dans notre vie qui ont cette fonction d'éveiller quelque chose en nous. Et nous, on a ce rôle dans la vie d'autres personnes. Et j'ai un peu cette sensation-là qu'il faut qu'on s'éveille ou qu'on se réveille, ou les deux, à ce qui importe vraiment, quoi. Et non, il n'y a pas... Alors, évidemment, et puis aussi, Les Éveilleurs, c'est aussi dans le livre Les Élémentaux. Hein. Voilà, Les Éveilleurs, c'est un tas de choses, en fait. Mais c'est ça, on est les éveilleurs les uns des autres. Pour moi, c'est comme ça. C'est un peu cette idée-là. Jade est l'éveilleur de Clarisse, Clarisse est l'éveilleur de Jade, Blaise est l'éveilleur de Jade et de Clarisse, Sierra... On a ce rôle-là. On interagit. On est tous ensemble là. Donc on a quand on communique, ça, on peut avoir ça peut se passer comme ça. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à toi.